Ok les amis, bon bah, on va essayer de démarrer quand même parce que j'ai vu les dernières fois qu'on avait quand même du mal
à finir dans les temps, nos
péricopes. Oui. Donc, c'est moins amusant de les reporter des petits bouts à chaque fois. Ça me perd un peu quelque part. Égoïstement, je dis ça, évidemment. Donc voilà, bienvenue à chacun, chacune. J'espère que vous avez eu un peu le temps de vous plonger dans le texte, même si vous n'avez pas fait les questions. Parce qu'encore une fois, ça paraît très très simple.
Oui, ça paraît. Oui. Mais tu vas nous dire encore plein de choses.
C'est
le texte
de Jacques des Apôtres que je préfère. Moi, je trouve ça cocasse.
Avec Pierre qui dit, ah moi j'adore ça aussi. Je trouve ça vraiment génial.
Donc, on est dans le 12e chapitre. Et on devrait attaquer à partir du verset 12 jusqu'au verset 19. Il nous restera un petit bout pour la fois prochaine avec l'histoire de la mort d'Hérode. Voilà, si quelqu'un veut faire la lecture, eh bien c'est très bien.
Eh bien, je vais le faire. Quand il eut compris la situation, il se rendit à la maison de Marie, la mère de Jean, surnommée Marc. De nombreuses personnes s'y étaient réunies pour prier. Pierre frappa à la porte d'entrée et une servante nommée Rhode s'approcha pour ouvrir. Elle reconnut la voix de Pierre et en fut si joyeuse qu'au lieu d'ouvrir la porte, elle courut à l'intérieur annoncer que Pierre se trouvait dehors. Et lui dirent « Tu es folle !» Mais elle assurait que c'était bien vrai. Ils dirent alors « C'est son ange !» Cependant, Pierre continuait à frapper. Quand ils ouvrirent enfin la porte, ils furent stupéfaits de le voir. De la main, il leur fit signe de se taire et il leur raconta comment le Seigneur l'avait conduit hors de la prison. Il ajouta, « Annoncez-le à Jacques et aux autres frères et sœurs. » Puis, il sortit et s'en alla ailleurs. Quand il fit jour, il y eut une grande agitation parmi les soldats. Ils se demandaient ce que Pierre était devenu. Hérode le fit rechercher. Mais on ne le trouva pas. Il fit interroger les gardes et donna l'ordre de les exécuter. Ensuite, il se rendit de la Judée à Césarée, où il resta un certain temps.
Très, très bien. Voilà, bon, on a tous, je pense, les questions plus ou moins en tête. La première chose que je voulais vous dire, c'est une petite introduction habituelle, c'est qu'on a vu donc... La fois passée que Pierre avait été libéré miraculeusement, et donc il échappe à la mort par conséquent, puisque c'était quand même le but d'Hérode, mais il lui reste cependant à préserver sa vie, parce que tout n'est pas gagné, et tant qu'Hérode sera roi, il devra vivre dans la clandestinité et éviter à tout prix, en tout cas, de demeurer à Jérusalem. C'est pas trop où il est allé, mais ça on en reparlera tout à l'heure. Voilà. Donc, à part ça, on va démarrer par la première question.
Marie.
Au sujet de Marie. Qui est cette Marie?
J'ai cherché, je n'ai pas vu, à part la mère de Jean, comme c'est marqué dedans.
Oui. La mère de Jean-Marc.
Mais quel Jean?
Alors, Jean surnommé Marc. Donc, Jean étant un prénom hébreu, Marc étant un prénom romain. Marcus, en réalité. D'accord. Donc, vous aviez déjà vu précédemment dans les Actes que beaucoup de Juifs avaient deux prénoms. Un prénom juif, évidemment, hébreu, et puis un prénom grec, très souvent. La majorité, c'était grec, parce que le grec était la langue parlée dans tout le bassin méditerranéen. Mais, de temps en temps, comme Paul, ils ont aussi des noms romains. Donc, au lieu d'un prénom grec, ils peuvent avoir Paul, Sylvain, Silas, tout ça, c'est des prénoms romains, en fait. Voilà, donc, on est devant cette Marie. Est-ce que quelqu'un a trouvé autre chose qui puisse nous éclairer?
Ce n'est pas le Marc évangéliste.
Voilà. Donc ça, c'était important à repérer. Que ce n'est pas de n'importe quel Marcus dont on parle, mais de celui qui deviendra, parce qu'il ne l'est pas encore, qui deviendra l'auteur du deuxième évangile. Et donc, on voit bien qu'il y a des accointances, d'ailleurs, entre l'évangile de Marc et puis certains écrits pauliniens. Mais j'y reviendrai dans un petit moment. Donc, en fait, je ne sais pas ce que vous avez dans vos versions au tout début, parce que ça varie d'une version française à l'autre, mais Moi, dans la tobe, on a « il se repéra ». On a un peu l'impression qu'il regarde sa carte ou son GPS pour savoir où se trouve la maison de Marie. Alors, c'est quand même amusant, parce que quand on connaît Jérusalem, notamment le vieux Jérusalem, on se rend bien compte qu'il n'y avait pas 36 000. Hein, traverser le vieux Jérusalem à pied, en 20 minutes, c'est fait. Hein. Donc, ne pas connaître une rue à Jérusalem, oui, c'est impossible.
Enfin, il sort quand même de sa prison, de oui, son sommeil.
Oui.
Donc,
oui,
il doit avoir.
Oui,
cette maison-là,
je la connais,
donc
ça doit être
dans
cette
rue-là. Alors, en grec, le verbe utilisé n'a rien à voir avec le repérage géographique. Mais bien avec.
Je n'ai pas son nom.
Sunidon, qui est. On pourrait traduire par « ayant réalisé » ou « ayant compris
voilà. »
ou « ayant vu » ou « ayant constaté », si vous voulez.
Moi, je n'ai pas,
alors, je me rends, je décide de me rendre de là où je suis, à la maison qu'il connaît le mieux, apparemment, qui est la maison de Marie.
Moi, je n'ai pas ce que tu as.
Qu'est-ce que tu as ?
Après avoir réfléchi.
Voilà, c'est ça, on peut dire ça.
D'autre façon,
il remet toutes les... Comme tu disais, il s'était un peu... évanoui dans un rêve éveillé, puis voilà, il se réveille, il faut un petit peu de temps pour se ressaisir. Voilà. Et donc il gagne, et si le texte est clair, il gagne tout de suite la maison de Marie, la mère de Jean surnommée Marc. Dans certaines versions, on a Jean-Marc sans le surnom, c'est pas très grave. Alors, c'est donc une maison connue, ce n'est pas du hasard. C'est une maison amie que Pierre connaît bien pour être un lieu de rassemblement des chrétiens. Comme je vous l'avais dit, l'église de Jérusalem se réunit en réunion, enfin, en église de maison, on va dire ça comme ça, au pluriel, parce que chaque quartier a son église, etc.
Oui, j'allais dire, probablement qu'il y en avait plusieurs.
Et
il va dans celle-là, parce que c'est la plus proche.
Et la preuve dans le texte, c'est que certaines personnes qu'il veut contacter ne sont pas là. Notamment le fameux Jacques, dont on reparlera aussi. Donc oui, il y a d'autres églises, d'autres groupes, qui la même nuit, sans doute, sachant que Pâques va s'arrêter demain, continuent à prier pour la sauvegarde de Pierre. Voilà. Donc, cette maison, elle appartient à Marie. Alors déjà, c'est assez symptomatique, parce que ça veut dire qu'elle n'a pas de mari, elle doit être veuve, vraisemblablement. Elle appartient à Marie, une veuve apparemment fortunée, parce que ce n'est pas le petit taudis du fin fond des bas-fonds de Jérusalem. C'est une belle baraque, et on en verra pourquoi tout à l'heure, une belle grande maison située dans les hauts quartiers de Jérusalem, parmi les quartiers riches, mais j'en reparlerai aussi dans un moment. Elle est en tout cas assez spacieuse pour accueillir, dit le texte, de nombreuses personnes. Ce qui souligne déjà que Marie est une disciple de Jésus, une disciple pieuse, engagée, dévouée pour l'église de Jérusalem. Et Luc précise alors, parce que voilà, de quelle Marie s'agit-il ? Plein de femmes s'appellent Myriam à Jérusalem. Il précise qu'il s'agit de la mère de Jean, surnommée Marc ou Jean-Marc, car beaucoup de femmes portaient ce fameux prénom. Et cela suppose donc que le fameux Jean ou Marc ou Jean-Marc est lui-même bien connu, parce qu'identifier Marie par le Fils, il fallait que les gens connaissent le Fils, bien connu des croyants de Jérusalem, et surtout des lecteurs de Luc, puisqu'il écrit aux gens. Et pour cause, primo, il est le cousin de Barnabas, le fameux Barnabas dont nous avons déjà plusieurs fois parlé. Le cousin de Barnabas, le Lévite, le fameux missionnaire à Antioche, l'ami de Paul. Et il est donc issu d'une famille lié à la prêtrise, par conséquent. Parce que Barnabas, c'est un lévite, d'accord ? Et si c'est le cousin, c'est les mêmes genres de famille dans la même tribu, d'accord ? Donc, il appartient à l'aristocratie sacerdotale, une famille relativement aisée. Deuxième chose, lui-même, le fameux Jean-Marc, est juif messianique, puisqu'on le découvre plus tard, missionnaire avec Paul et Barnabas, au chapitre 12, au chapitre 13, puis avec Barnabas tout seul au chapitre 15. Et on le retrouve aussi beaucoup plus tard avec Paul aux Colossiens. Dans Colossiens, dans Timothée, dans Philémon, on parle du travail que fait Marc avec Paul. Et avec Pierre aussi, dans la première épître de Pierre, on découvre qu'il a aussi travaillé avec Pierre. Alors voilà, on pourrait s'arrêter là, mais ce n'est pas tout, puisqu'il est aussi, comme vous l'avez dit tout à l'heure, l'auteur du deuxième évangile. En tout cas, il sera l'auteur du deuxième évangile. D'ailleurs, pour la petite anecdote, je ne sais pas si vous vous souvenez de la fin de l'évangile de Marc, Marc 14, 52, il est question d'un certain jeune homme qui suivait ceux qui avaient arrêté Jésus et qui s'est enfui parce qu'on voulait aussi l'arrêter. Et comme il était juste recouvert d'un drap, il a tout lâché pour se tailler à poil, sans doute dans les jardins, etc. Ce qui pourrait suggérer que la maison de sa mère était assez proche du jardin de Gethsémané, donc dans les beaux quartiers à l'époque, tout proche du mont du Temple en réalité. Voilà pour la petite anecdote, fermons la parenthèse ici. Et donc on découvre dans ce même verset qu'il y a une foule assez nombreuse qui assiste à cette prière de nuit. Alors, ok, c'est pas juste une question de prière, c'est les fêtes de Pâques. La fête de Pâques, pardon. Et donc, nécessairement, tous les soirs, la plupart des Juifs se rassemblent, même les non-messianiques, pour faire la fête, puisque la fête s'arrêtera seulement le lendemain soir au coucher du soleil. Donc voilà, rien d'extraordinaire. Du coup, rien non plus à reprocher à cette Marie qui accueille des tas de gens chez elle pour faire la fête de Pâques. Ça paraît tout à fait normal à tout le monde. Hein. Il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Ah, c'est des messianiques, etc. Bien qu'on sache sans doute qu'ils le sont. Hein. Et donc, cette assistance est en prière, comme la plupart des autres frères et sœurs de l'Église messianique, ce qui nous conforte dans l'idée que Marie accueillait vraisemblablement une église de maison de manière courante chez elle, quoi. Et voilà que on nous raconte cette histoire au verset 13 de Pierre qui frappe. Alors, c'est assez compliqué en français parce qu'on a l'impression qu'il toque directement à la porte de la villa, mais c'est un peu comme dans l'histoire que nous avions vue à Joppé.
Oui.
C'est au portail extérieur que Pierre frappe. Donc, il y a une maison cossue qui comportait un portail extérieur menant à la rue, si vous voulez, et qui tombait sur une cour intérieure qu'il fallait traverser pour atteindre, un peu comme chez Corneille aussi d'ailleurs, pour atteindre la porte de la maison elle-même. Et vu la distance, on comprend donc bien pourquoi l'assemblée des frères ne pouvait pas entendre les coups donnés à la porte par Pierre. Alors, qui réagit ? On le sait dans le texte, la petite servante, là. Une servante qui s'appelle Rodée, qu'on pourrait traduire à peu près comme rose, c'est le nom d'une fleur. Hein. Rose en français, quoi. Et donc, on découvre qu'il y avait... C'est une famille aisée, puisqu'il y a tout ce truc architectural, et qu'il y a une domestique préposée à la porte. Alors d'autant plus vrai que sans doute il fallait filtrer les entrées de la villa. Donc cette personne Rodée est un prénom féminin, donc on sait que c'est une femme. En plus, le terme utilisé pour parler de son statut, qui est paidisqué en grec, c'est littéralement une très jeune servante, une très jeune esclave, si vous voulez. Mais comme paidisqué c'est du féminin, on sait que c'est une fille. Bon, c'est une fille sortie de l'enfance, une jeune fille qui a peut-être 15, 16 ans, grand maximum. Et elle s'approche, dit le texte en grec, s'approcha, non pas pour ouvrir, mais pour écouter. Le style, qui es-tu ? Si tu ne me réponds pas, je ne t'ouvre pas. Quoi, hein, d'accord ? Donc elle écoute pour reconnaître de qui il s'agit, qui vient tambouriner comme ça en pleine nuit. C'est quand même presque la fin de la nuit. Donc pour ouvrir ce portail. Alors, bien sûr, il y a des questions de sécurité. Il est d'ailleurs probable que les consignes de sécurité étaient renforcées depuis la première persécution, et à plus forte raison, suite aux arrestations de Jacques, assassiné, et de Pierre. Donc, le texte nous dit quoi ? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là ?
Elle reconnaît la voix.
Elle connaît en tout cas Pierre, puisqu'elle reconnaît sa voix.
Sans avoir ouvert, et sans l'avoir vu, parce que le texte parle bien de l'entente, de l'oreille, elle reconnut la voix de Pierre.
Ce qui nous montre... Elle n'ouvrit pas.
Oui, et ça nous montre bien que Pierre était un habitué, puisqu'elle reconnaît tout de suite le timbre de la voix. Raison pour laquelle il rejoint d'ailleurs lui cette maison, parce qu'il sait qu'il est connu, qu'on l'hébergera, qu'on le mettra à l'abri, qu'on le cachera éventuellement. Et peut-être était-ce même là la communauté de base de l'apôtre, puisqu'on a vu qu'il y avait des églises de maison, et peut-être que c'est celle que lui fréquentait à Jérusalem. Et du coup, comme tu dis, Brigitte, cette jeune fille, toute contente, n'est-ce pas, n'ouvre pas du tout le portail, mais le texte grec est très clair, elle rentre en courant, donc c'est qu'elle est bien à l'extérieur, elle rentre en courant dans la maison. Donc ce n'est pas juste je suis derrière la porte, je cours dans le couloir, dire aux autres qu'il est là.
Elle courait à l'intérieur,
C'est ça, exactement. Donc elle traverse cette cour, puisqu'elle est au portail, et elle entre dans la maison. On peut comprendre d'ailleurs la joie de cette jeune fille. Mm-hmm. Hein, on prie pour Pierre depuis des jours, et puis voilà qu'il frappe au battant de la porte. Il y a de quoi se réjouir. D'autant que ça paraît totalement incroyable en pleine nuit, et sa joie est si grande qu'elle en oublie d'ouvrir la porte à l'apôtre, ne serait-ce que pour le mettre en sécurité. Et on apprend par ce détail que cette jeune fille, esclave, servante, est aussi chrétienne. Pourquoi serait-elle dans la joie en tant qu'esclave de voir arriver Pierre, sauf s'il est gentil, qui lui donne un bonbon chaque fois qu'il vient. Mais sans quoi sa joie est totalement inexplicable, exactement. C'est une très grande joie, c'est pas une petite joie. C'est pas juste « je suis content que tu sois libéré », non. Ça explose, quoi. Manque de bol, tout le monde ne réagit pas de la même manière. Là, c'était la question 4.
On s'imagine bien
la situation.
Bah oui. Qu'est-ce qu'on peut déduire des paroles « tu es folle »
Qu'est-ce que j'ai aimé. Ils ne peuvent déjà pas la croire. Hein.
Voilà. Oui. Donc, quelque part, alors c'est drôle parce que...
Ils savent sûrement bien dans quelles conditions Pierre est retenu.
Oui.
Donc, c'est pas possible qu'il s'échappe.
Pour eux, ça ne paraît pas vraiment possible.
C'est
pas
récent. Mais quand les femmes annoncent la résurrection...
Exactement.
S'il te plaît.
Il y a plusieurs statues.
C'était la
Et alors, on voit qu'elle n'en démord pas. Enfin, dans la top, c'est ne pas en démordre, mais en fait, elle devient insistante. Elle est presque vexée que les autres lui disent, écoute...
Elle assurait que c'était vrai.
Elle revient à la charge, elle leur dit, non, c'est bel et bien Pierre qui est là.
Et, disent encore,
et en grec, on voit, le verbe est à l'imparfait, donc on voit bien qu'elle l'affirme plusieurs fois. Elle défend ce qu'elle a dit la première fois avec énergie, avec une certitude avérée, et la réaction fuse immédiatement lorsqu'elle l'annonce. Hein. Non, mais attends. C'est tout bonnement invraisemblable et impossible, surtout d'être libéré en pleine nuit. Et peut-être c'est une attitude un peu naturelle aussi. Si on te dit, tiens, un tel a été libéré, peut-être qu'on peut aussi imaginer qu'on a difficile à le croire, même si on sait que c'est vrai. Vous voyez ce que je veux dire? Ça nous arrive, ça. Mais c'est pas possible. En fait, c'est vrai, puisque tu le sais, on te le dit. Donc voilà, on ne sait pas trop s'ils sont vraiment dans le doute ou s'ils sont stupéfaits par la nouvelle qui dépasse de loin leur attente. Hein. Un peu comme les disciples, d'ailleurs, vous savez, les disciples, quand ils voient Jésus apparaître la première fois dans Luc 24, ils tiennent les mêmes propos, quoi. Ils sont abasourdis, stupéfaits, ils n'en croient pas leurs yeux ni leurs oreilles. Mais la suite du verset nous montre que le groupe réuni n'arrive pas à la croire, peut-être justement parce que c'est une esclave, une
très
fille,
jeune.
Une jeunette.
Tout est contre elle, quoi.
Ouais.
Et puis même, serait même un homme qui l'aurait annoncé, Pierre est en prison.
Je pense que le doute était potentiellement là.
Mais je
pense aussi que c'est lié au fait que ils ont aussi prié pour Jacques.
Et que Jacques est mort.
Et ils n'ont pas été exaucés. Jacques est mort. Il a été exécuté. C'est un peu de quoi refroidir quand même l'acte de foi. Donc quand on t'a fait une fois le coup de « je prie pour toi, puis tu meurs », tu te dis « il y a peu de chances que ça marche pour Pierre ». Donc c'est un peu comme s'ils étaient vaccinés. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que ce soit vrai. D'autant que si on avait dû libérer Pierre pour une bonne raison, il ne l'aurait pas fait en pleine nuit. Donc on l'aurait libéré un matin, voilà, désolé, on s'est trompé, on vous a arrêté pour rien. Voilà, il n'y aurait pas eu tout ça. Et alors, à l'invraisemblable, il faut toujours trouver une explication.
Oui.
C'est ça qui se passe dans le verset. Oui. Comme on ne la croit pas vraiment et qu'on doute, on dit,
elle
mais
existe, on dit c'est ça,
mais alors c'est un ange, ou c'est son ange, dit le texte.
Mais quand il dit c'est son ange, est-ce que c'est son ange gardien ou est-ce que c'est lui qui est devenu un ange?
Oui.
Non.
Je me suis demandé ça, moi.
C'est alors, quoi, ça, peut être, dire quoi, ça peut être deux choses dans le contexte du Nouveau Testament. La première chose, c'est l'ange gardien, auquel d'ailleurs Jésus semblait croire. Mm-hmm. Une sorte de double, si vous voulez, spirituel. On voit que Jésus, je cherche la référence qui est tout petit ici, dans Matthieu 18, au verset 10, parle des anges gardiens des enfants. Pas si vous vous souvenez de ce passage. Et donc Jésus lui-même a affirmé, donc les juifs messianiques savent ça évidemment, hein, qu'il semblerait qu'il y ait des anges qui s'occupent de chacun d'entre nous, pour nous protéger, peut-être nous guider, etc. Ça, c'est la première possibilité de comprendre, c'est son ange. Mais dans certaines traditions populaires juives, quelqu'un qui avait été juste pouvait devenir comme un ange après sa mort. Donc on sait qu'il y a aussi ces tendances-là. Et puis, il y a surtout l'idée que ange et esprit, c'est un peu la même chose pour le Nouveau Testament. Donc ça peut être aussi son esprit. Voilà.
Donc, dans la tempe, il y a la note I. Oh, c'est en quelque sorte son double spirituel.
Oui.
Je n'ai pas été voir les...
Ah, on voit mieux.
C'est mieux.
On voit mieux.
Il était temps. À Hébreu et à Tobie.
Oui.
Tobie.
Oui. En fait, si tu veux, dans le judaïsme, il y a toujours une, en tout cas pour certains, pas pour tous les plans, mais une croyance dans les anges, et dans ces anges, un classement avec des rôles différents des anges, dont les fameux anges gardiens, notamment lié à l'enfance, où c'est la période de la vie la plus vulnérable, etc. Il peut arriver tout et n'importe quoi à un enfant. Donc, il y a des anges qui étaient, ce que Jésus raconte, en tout cas, hein, c'est pas moi qui l'invente, susceptibles de les garder, de les protéger. Alors, vous imaginez le débat. C'est une assemblée, alors c'est pas une assemblée d'occidentaux, c'est une assemblée de juifs, en pleine fête et en prière, et à qui on dit « un tel est là devant la porte », alors qu'il est en prison normalement. Et là, tout le monde se met à parler. Tout le monde va de son explication. Mais pendant ce temps-là, l'autre, il est toujours dehors à tambouriner à la porte, puisqu'on nous dit au verset 16 que Pierre, pendant ce temps,
il frappe
continue
toujours
à frapper à la porte, puisqu'il a entendu la petite servante. Ils se sont peut-être même dit « Qui es-tu ?» Il a répondu « Pierre ». Voilà. Donc il sait que c'est Rodée qui était derrière la porte. Il a entendu courir et puis il n'y a plus rien. Et pendant tout un temps, il tambourine et tambourine. Et enfin, et c'est pour ça qu'il fallait analyser la question « Comment se fait-il qu'elle devienne « il » Parce que...
Ils se sont quand même levés.
Ah oui, tout le monde est sorti finalement.
Tout le monde est allé voir.
L'autre insistant tellement... Eh ben, une fois qu'ils ont été dehors, ils ont entendu Pierre qui tambourinait encore sur la porte. Donc, c'est pour ça qu'ils sont tous là, à l'ouverture de ce portail. Et le texte dit, ben oui, c'était lui.
Et, parce que, en fait, et aussi, on dit, bon, dans la tope, Pierre, cependant, continue à frapper. Mais dans le grec, c'est persister.
Oui, persister, exactement.
Ah oui, sûrement, oui.
Tout à fait.
Encore plus fort,
lui, il persévère parce qu'il sait qu'il y a quelqu'un. Donc il ne comprend pas pourquoi on ne lui ouvre pas.
Ouais.
On ne lui ouvre pas alors que lui est en danger. Tu vois.
C'est bizarre, les portes de la prison se sont ouvertes.
Et ça, ça pas de
amis. Et la maison des amis, elle ne s'ouvre pas.
Exactement. Donc il y a des petits clins d'œil. Je dois dire que Luc a quand même beaucoup d'humour hein, quand il raconte les choses. On en verra encore un trait tout à l'heure, d'ailleurs. Donc voilà. Ils sont tous là, on pourrait presque dire ils ouvrent tous en même temps le portail, et là, ils constatent que c'est lui, puis ils n'en reviennent toujours pas.
Ben oui.
Donc même là, en le voyant, ils ont encore une sorte de doute, si vous voulez. Peut-être sont-ils aussi sortis par curiosité, parce que Rod insistant, peut-être quand même aller voir. Hein. Voilà. Donc tout le groupe est là, et le texte grec dit ils sont stupéfaits. Donc ils sont hors d'eux, si vous voulez, incapables. Alors hors d'eux aussi en grec, ça veut dire incapables de raisonner. Du coup, il est bien là, mais pourquoi est-il là ? Tu vois ? Ça n'a pas de sens. Il est en prison, normalement. Il est enchaîné, il est condamné à mort, de toute façon. Comment c'est possible qu'en pleine nuit, ce gars qui était en prison soit devant le portail ? Là, ils ne comprennent pas. Comment peut-il être libre, seul, devant le portail ? Ce n'est pas rationnel, du tout. Donc là, on voit que même en ayant les preuves matérielles, il y a encore une quasi-impossibilité de se dire « Oui, c'est bien lui et on va faire la fête. » Alors, ils sont, comme je le dis, c'est une communauté juive, donc il y a tout le monde babille, tout le monde gueule, tout le monde pousse des cris, tout le monde s'exclame « Mais c'est Pierre !» tu vois, etc. On imagine bien la scène. Alors, de la main, lui, il en a marre. C'est déjà tambouriné à la porte. Il aimerait bien traverser la cour. Il leur fait signe de se taire. Voilà, il lève la main. On a déjà vu ça, d'ailleurs, dans les actes un peu auparavant. Et on reverra ce signe plusieurs fois dans les actes avec Paul, où Paul, quand il est arrêté, tout ça demande le silence. Hein, quand les Juifs vocifèrent, il dit « Frère, voilà, j'ai quelque chose à dire pour ma défense. » Bon. Alors, on se rend bien compte que s'il doit faire ce geste pour les faire taire, c'est qu'il y a un brouhaha, pas possible. Chacun exprimant à haute voix son étonnement ou sa joie. Hein, parce que quand même, si vraiment c'est Pierre, alors il n'y a plus besoin d'être anxieux pour l'avenir de Pierre, ni pour l'avenir de l'Église, peut-être. Et Pierre veut quand même leur communiquer, lui, ce qui s'est réellement passé. Pourquoi il est là ? Comment se fait-il qu'il est là en fin de nuit et qu'il peut être avec eux ? Voilà. Et on nous dit quoi ? Qu'à ce moment-là, il raconte, hein, dans les détails, sans doute, comment ça s'est passé pour calmer un peu le jeu. Et puis, il conclut en verset 17b, en leur disant « Allez maintenant l'annoncer à Jacques et aux frères. » Et vous avez une idée pourquoi c'était la question 7 ? Pourquoi il veut faire annoncer cette libération ?
Mais pour qu'ils soient rassurés aussi.
Oui, rassurés, que ça se propage aussi.
Ok. Donc, c'est là qu'on se rend compte que l'Église travaille en réseau. Et puis, toute l'Église ne peut pas être là, pas des milliers de personnes.
Que c'est le Seigneur qui est intervenu.
Oui. Donc, il veut qu'un témoignage soit donné sur la manière dont il a été libéré pour pouvoir rendre gloire à Dieu.
Et puis, il n'a pas l'intention d'y aller, lui-même, puisqu'il s'en va. Donc, il est charge.
Non, lui, il est en danger.
Voilà, il est charge d'aller prévenir pour qu'il soit rassuré.
Ok.
Pour moi.
Oui, ben oui.
Alors maintenant, on va avoir l'occasion de se disputer sur qui est Jacques.
Le Seigneur que j'ai moi dans le monde.
Oui, alors il y en a déjà un qui est mort.
Jacques et Jean, c'est le frère de
Jacques.
C'est le frère de Jacques qui est mort.
Ah, je ne sais pas.
Il savait que Jacques était mort.
Si, parce qu'après, c'est après qu'ils ont arrêté.
Lui, il est arrêté
après la mort.
Ah, après
la mort.
Le
frère de Jean,
oui, le Jacques est mort, c'est le frère de Jean.
Lui, c'est le frère de Jésus.
Alors, et là, on a deux hypothèses. Alors. Parce qu'on ne va pas dire qu'il y en a une qui est meilleure que l'autre. Hein. Il y a dans la tradition catholique, et à juste titre, je pense, l'idée qu'il s'agirait de Jacques, l'autre Jacques, qui était le groupe des douze.
Qu'on appelle le majeur.
Qui est le fils d'Alphée.
Ah, le fils d'Alphée.
Le majeur. Les protestants, à cause d'un texte de Galates, reconnaissent en Jacques, ici, le frère du Seigneur. Alors, Galates 1,19, pour être précis.
Galates
1, chapitre 1, verset 19. D'ailleurs, ce frère de Jésus prit une place prépondérante, alors qu'il n'était pas apôtre, dans la vie de l'Église de Jérusalem, ce qu'on découvre dans la suite du texte des Actes, et puis toujours dans Galates, le chapitre que j'ai cité, mais aussi Galates 2, 9, où on parle de Jésus. Et finalement, quand on y fait bien attention, et ça ne m'avait pas sauté aux yeux quand on a fait le premier chapitre des Actes, parmi les frères de Jésus, plusieurs étaient devenus disciples avant la Pentecôte. Étrangement. C'est le texte des Actes qui le dit. Acte 1, verset 14. Donc il y avait tout un groupe des frères de Jésus qui étaient déjà devenus disciples avant même la Pentecôte et dont il est question aussi dans Marc au chapitre 6, dans Corinthiens 9, 1 Corinthiens 9 et dans Matthieu. On voit que les frères de Jésus, c'est un groupe assez soudé, assez constitué et qui ont pris une place dans la communauté naissante. Voilà, donc moi, je n'ai pas envie de me disputer. D'ailleurs, ça ne change rien au texte. Hein,
que ce soit cousin ou frère, mais moi, personnellement...
Oui, mais même que ce soit Jacques de l'Alphée ou le frère de Jésus, ne change pas grand-chose à l'histoire, sur le moment, en tout cas. Mais quoi qu'il en soit, on découvre...
Ah oui, mais attends, mais Jacques, fils d'Alphée ou Jacques, frère de Jésus, ce sera un autre.
Oui, tout à fait. Ah. Et donc... Ça laisse supposer, alors si tu prends la version protestante, ça laisse supposer que Pierre sait qu'il n'y a pas d'apôtre à Jérusalem. Parce qu'il ferait prévenir alors le seul membre influent de l'Église après les apôtres, qui est le frère de Jésus. Mm-hmm. Voilà. Bon, peu importe, encore une fois.
Mais alors, lequel qui a été responsable de l'Église ? C'était
le frère de Jésus
qui a été responsable de l'Église.
Si tu t'en tiens au texte de Paulinien, en tout cas, qui a pris une place, on ne sait pas trop pourquoi, mais dans l'Église, il y a plein de gens qui, n'étant pas apôtres, ont atterri à des postes très importants dans l'Église. Donc, les apôtres, c'est ceux qui étaient dans le mouvement initial de fondation.
Responsable de l'Église de Jérusalem.
Et du mouvement, par la même occasion. Donc, c'est d'ailleurs pour ça qu'on voit que les apôtres sont délégués à l'extérieur. Ils ne restent pas tous à Jérusalem, parce qu'il faut superviser les églises de la Judée, de la Samarie, et puis maintenant chez les païens. Donc, c'est pour ça qu'on envoie Barnabas là-bas, qui lui-même n'est pas apôtre. Hein. Donc on se rend bien compte qu'il y a une très grande, une belle organisation, on va dire ça comme ça, de l'église, qui fait en sorte que les églises soient desservies par des gens compétents, quitte à vider Jérusalem de ses apôtres.
Oui, c'est ça.
Parce qu'il y a déjà un staff de gens à l'œuvre. Il y a déjà des gens qui prêchent, il y a déjà des gens qui servent, il y a des diacres, il y a tout ce qu'il faut. Donc voilà pourquoi faudrait-il 12 apôtres nécessairement à Jérusalem. Et donc Pierre semble savoir que soit il ne reste qu'un apôtre et c'est Jacques, fils d'Alphée, soit il n'y a que le frère de Jésus comme membre influent.
Et donc le frère de Jésus, c'est lui qui a été responsable de l'église de Jérusalem.
Oui. Par la suite, en tout cas.
Et c'est lui qui a écrit l'épître de Jacques.
Oui, exactement. Donc, les autres, on ne sait pas trop où ils sont, mais ils ne sont pas là. Il est donc important que quelqu'un d'important soit prévenu de la libération de Pierre, et pas de n'importe quelle libération.
Miraculeuse.
Une libération miraculeuse, divine, par un ange de Dieu, ce qui ne peut finalement qu'encourager le collège apostolique en entier à tenir bon dans la tempête, parce que la tempête est quand même là. Et il souhaite aussi, et ça c'est une précision touchante, je trouve, remarquable.
Mais excusez-moi, je m'en
vais
encore avec
vous. Vas-y.
Parce que donc, Jacques, frère de Jésus, c'est lui qui a été responsable de l'église de Jérusalem et qui a écrit l'épître de Jacques. D'accord. Mais Jacques, fils d'Alphée.
Était ah oui, un des douze.
C'était un des douze. Ah oui, il y avait deux Jacques.
Alors il y avait deux Jacques dans les douze.
Il y avait Jude et tout ça.
Oui, oui.
Et
c'est pour ça que nous, on se mélange un peu les pinceaux avec ça.
Exactement.
C'est comme avec les maris.
Zébédée aussi.
Oui, c'est bien. Donc, Jacques, c'était un fils de Zébédée, dont le frère était Jean. C'est lui qui est mort juste avant Pierre.
Oui,
donc, voilà. En fait, il y a trois Jacques.
Ça s'appelle le marchand de sable.
Voilà, oui, exactement.
Bah oui, deux apôtres et puis le frère de Jésus.
Mais alors, et comment ça se fait que c'est le fils d'Alphée qu'on appelle le majeur alors qu'il n'a pas été responsable
de... Tu peux en mettre un peu plus.
Peut-être que c'est moi qui me trompe. C'est peut-être le premier qui était le majeur, celui qui est mort, et lui le mineur, justement. Parce que dans les historiens de l'Église, ils font cette différence, justement.
Entre les deux apôtres.
Entre les deux. Pour les distinguer, je pense, surtout. Je pense que le premier, c'est le majeur.
Pour dire qu'il était le plus âgé.
Pas spécialement le plus âgé, mais le plus influent, celui qui avait le poste le plus important.
Ouais, voilà.
D'ailleurs, c'est pas pour rien, je pense qu'Hérode l'a fait trucider, le premier.
parce qu'il était presque plus que Pierre, d'une certaine manière. Ok, mais je peux vérifier si tu veux par la suite. Et donc, ce que je trouvais touchant dans notre texte, c'est que Pierre insiste aussi pour que les frères... Alors, c'est qui les frères ?
La communauté.
Oui, l'ensemble de l'Église de Jérusalem. Toute l'Église de Jérusalem, dont tous les frères et sœurs qui prient pour lui depuis des jours et des jours, qu'ils soient mis au courant afin de partager, d'une part, la joie de la libération, de faire baisser la pression et l'anxiété chez les croyants. Et puis, il s'agit sans doute aussi de faire en sorte que les prières de supplication cessent, puisqu'il est libre, et que soient remplacées peut-être par des actions de grâce, après tout. Hein, dire merci à Dieu aussi, c'est pas mal, quoi. Et puis, très bizarrement, notre texte, à ce moment-là, fin du verset, puis il s'en alla.
Autre chose.
Petit figeau.
Donc, après avoir fait toutes ces recommandations, on sent bien qu'il est pressé. Donc, le texte est très clair. Hein. Puis il s'en alla et se mit en route. Alors, je ne sais pas ce que vous avez dans vos versions. Dans la tome, on a pour une autre destination.
Ailleurs.
Ailleurs. Un autre lieu, c'est conforme au grec, par contre. Le grec dit ça, en réalité. Donc le grec dit, et étant sorti, il se rendit en un autre lieu. Mais du coup, on ne sait pas où, mais en tout cas, c'est certainement pas Jérusalem.
Ben oui.
Alors il faut savoir que si on voulait fuir la juridiction d'Hérode, il ne fallait surtout pas aller vers Césarée, là où sont les garnisons romaines. Il ne fallait pas traverser la Judée. En fait, il pouvait aller nulle part sur les routes officielles. Donc si Pierre s'échappe de Jérusalem, c'est en descendant vraisemblablement vers le Jourdain ou vers la mer Morte pour échapper le plus vite possible à la juridiction de notre ami. Mais on n'en sait rien, en réalité. Et il y a eu plein de supputations dans l'histoire des plus rocambolesques, du style, dans la tradition catholique, Pierre serait parti à Rome.
Oui,
se jeter dans la gueule du loup, il faut quand même le faire un peu, quand même, je trouve. Non, mais c'est bizarre comme on a pu inventer sur base de rien, puisqu'on n'a rien en main pour le déterminer, et que les pères de l'Église n'en parlent pas vraiment non plus. Donc, je reviens à mes moutons, verset 17c. Il quitte donc, en tout cas on comprend ça, rapidement la maison de Marie, sans doute par mesure de sécurité pour tout le monde, pas que pour lui, parce que s'il est arrêté là, manifestement tout le monde va payer. D'une maison d'ailleurs trop en vue, bien connue, pour être une maison quand même liée un peu au mouvement messianique, hein, même si c'est une maison relevant de la tribu de Lévi. Et le fait que le lieu où il se rend ne soit pas clairement mentionné indique bien une mesure de sécurité. C'est-à-dire il tient lui-même le lieu secret. S'il avait voulu que ça se sache parmi l'Église, il aurait dit « je m'en vais à tel endroit ». Si vous avez quelque chose à me dire, envoyez-moi un messager à cet endroit-là. Non, même Luc ignore. Luc, qui écrit, qui est historien, ignore complètement ce qu'a fait, ce qu'est devenu et où est allé se cacher Pierre. Alors, il faut savoir que donc on est presque au matin, là. Le jour va se lever, d'après la suite du texte. Donc on est presque à l'aube et on va entamer le dernier jour de la fête des pains sans levain, le dernier jour des fêtes pascales, si vous voulez. Et il est donc probablement sorti des territoires assez rapidement pour échapper au pouvoir d'Hérode. En tout cas, on ne mentionnera plus Pierre avant le 15e chapitre des Actes, c'est-à-dire au moment du fameux concile au sujet de la division à Antioche sur « faut-il circoncire les païens qui se convertissent ?» Vous voyez. Et là, ça va péter, évidemment, le grand concile, parce que Paul et Barnabas ne sont pas d'accord et tiennent à ce que le collège apostolique donne une bonne indication de ce qu'il faut réellement faire avec les païens. Et c'est là qu'on retrouve Pierre argumentant, justement, en faveur de la non-circoncision. Mais nous, on lit ça d'une manière très plate. On dit « oui, mais Pierre, il va revenir au 15e chapitre ». Oui, mais que s'est-il passé entre maintenant et le 15e chapitre. C'est ça qu'il faut essayer de voir. Du coup, on peut estimer quand même la durée de la clandestinité de Pierre. Alors, il y a deux hypothèses. Soit il a eu vent de la mort d'Hérode et il revient quelques semaines plus tard, parce que Hérode est certainement mort dans le mois qui a suivi ces histoires de fêtes de Pâques. Et il aurait pu revenir à ce moment-là à Jérusalem. Mais alors, étrangement, on ne parle quand même plus de lui non plus. D'accord ? La deuxième hypothèse, qui me semble à mon avis plus plausible, c'est qu'il est revenu pour le concile, au moment du concile, c'est-à-dire après le premier voyage missionnaire de Barnabas et Saul. Et si vous regardez sur une carte quel a été ce voyage missionnaire de Barnabas et Saul, ils sont partis d'Antioche en bateau, en passant par Chypre, en s'arrêtant à Chypre, en reprenant un bateau pour aller au sud de l'Asie mineure, faire tout un tour dans les terres et puis revenir à leur point de départ à Antioche, c'est-à-dire au bas mot, quelques mois. Parce que rien ne va vite à l'époque, n'est-ce pas ? Et surtout pas le fait de s'arrêter dans chaque lieu, d'enseigner dans les synagogues, de voir des conversions, vous imaginez ? C'est presque pas quantifiable. Mais en tout cas, on peut se dire quelques mois, raisonnablement. Et du coup, ça rend le mystère encore un peu plus épais, puisque que ce soit quelques semaines ou quelques mois, dans tous les cas, on ne sait toujours pas où Pierre est allé se cacher. Et si on pense qu'il a dû s'échapper, c'est plutôt dans des territoires païens, de l'autre côté du Jourdain, voyez, ou tout à fait au sud, dans le Néguev. Ou alors, mais là, franchement, ça nous étonnerait, je pense qu'aucun commentateur d'ailleurs ne le souligne, il n'a pas pu aller au nord à Antioche, c'est un trop long voyage, et en faisant tout un tour par les pays païens pour ne surtout pas entrer dans le domaine d'Hérode. Ça paraît un peu tiré par les cheveux. Alors on sait tous, nous, que des hommes de Dieu, dans le passé, y compris dans l'Ancien Testament, ont vécu la clandestinité, et très souvent dans le désert, cachés dans des grottes, etc. Donc, il n'y a rien d'extraordinaire à cela quand on connaît un peu la Judée, le sud de la Judée ou le Néguev. Pas de problème. Trouver un oasis et s'arrêter 15 jours, un mois, deux mois, trois mois. Après tout, les corbeaux sont là pour nous nourrir. Donc, on va bien. Hein, ok. Ok, ça vous va jusque-là?
Oui.
Alors, on entame le verset 18. Quoi ce tumulte chez nos soldats?
Parce que Pierre n'est plus là. Ils n'ont rien vu, rien entendu. Qu'est-ce qu'ils vont ramasser? D'ailleurs, ils ramassent.
Ils savent bien que...
Ah ouais, ça ne pardonne pas, là. Hein.
Ah ben, on rigole pas.
Donc là, on a une belle indication dès le début du verset, c'est qu'en fait, tout s'est passé de nuit.
La nuit.
Y compris la rencontre chez Marie, avec l'Église. Donc tout s'est passé de nuit, puisque le jour commence à se lever. Et c'est seulement à ce moment précis que les soldats de garde, ceux qui étaient de garde,
réalisent
que Pierre n'est pas là. Au bout des chaînes, il n'y a personne.
Faire un drôle d'effet.
Ce qui nous permet quand même d'estimer que ça s'est passé en fin de nuit. Parce que la garde, si vous voulez, vous vous rappelez, il y avait 4 escouades. Mm-hmm. Ça veut dire que toutes les 3 heures à peu près, ils étaient relevés. Donc, quand il s'est échappé, c'est au bas mot, lors de la dernière escouade, celle qui était de service, juste avant le lever du jour, c'est-à-dire plus ou moins 3-4 heures avant le lever du jour. Donc, vraiment, quand le sommeil est bien profond, Dieu a 16 heures, hein, le sommeil bien profond, personne n'a rien vu, comme tu dis, personne. Voilà. Et le texte grec utilise un mot bien précis, qu'on pourrait traduire par « et moi ». Et j'ai quand même regardé un peu au dictionnaire. Les « moi », c'est ce qui perturbe, ce qui trouble, et un trouble qui est causé généralement par la crainte et l'inquiétude. Mmh. Donc ce n'est pas n'importe quel trouble. C'est le trouble pour soi, la crainte pour sa vie, quelque part. Et c'est là qu'on découvre encore un petit clin d'œil humoristique de notre ami Luc, qui dit... En grec, un émoi pas petit.
pas petit.
Ah, oui, litote, par conséquent, en français. C'est-à-dire un très grand émoi. C'est vraiment le bazar total dans cette prison. Les quatre escouades se demandent « Mais qu'est-ce qui se passe ici ?» Et on va sans doute douiller quelque part.
Oui.
Donc, on comprend mieux les raisons de cet émoi lorsqu'on sait que, selon la loi romaine, un soldat dont le prisonnier s'évade devait subir la peine qui était réservée à celui-ci. D'accord ? Or, ici, on sait que c'est la peine de mort. Les soldats concernés devront donc répondre de leur propre vie, si on ne retrouve pas Pierre, évidemment. Il s'agit vraisemblablement de la dernière escouade, pas de tous, pas des 16, mais peut-être des 4 derniers, de ceux qui étaient de garde au lever du jour. Et le questionnement même des soldats nous montre au moins 3 choses. Je ne sais pas si vous en avez trouvé l'une ou l'autre raison de leur questionnement.
D'abord, qu'est-ce qu'il est devenu ?
Ben oui.
Il ne le trouve pas.
C'est totalement incompréhensible.
Comment ça s'est passé ?
C'est hors de la raison humaine, puisqu'ils n'ont rien vu.
Rien senti.
En tout cas, sur les 4 soldats, vous imaginez, 4 soldats de garde, il n'y a eu aucun témoin. Rien pour expliquer où Pierre est passé. Comment a-t-il pu s'échapper, s'évader de la prison ? Ce qui est déjà d'ailleurs totalement impossible en soi, puisqu'il était enchaîné. À 2 d'entre eux, sur les 4. Donc, rationnellement, il n'y a pas d'explication. Deuxièmement, on sait que la réussite d'une telle évasion, sur le plan technique et humain, était impossible. Totalement impossible. Parce que quand on est enchaîné à 2 soldats, enfermés dans une cellule, porte verrouillée, porte surveillée par 2 soldats, différents postes de garde, comme on l'a vu la fois passée, à franchir, sans compter la porte principale de la prison en fer, dit le texte.
Mais c'est pas possible.
C'est impossible.
Mais il était impossible.
Et la troisième chose, je pense, que cache la question, c'est que les soldats n'ont aucune explication valable à fournir. Rien à fournir à la hiérarchie, encore moins à Hérode. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? On comprend le danger pour eux. Et puis, étrangement, on s'attendrait à ce que, justement, là, le couperet tombe. Mais non, Hérode prend son temps. Lui, il envoie sa police rechercher le fameux Pierre. Et le verbe « rechercher » ici, que Luc utilise en grec, dénote une recherche particulièrement multiple et réalisé avec soin. C'est pas n'importe... Je cherche mon stylo, tu vois, ça, c'est pas la même chose. Non, là, franchement, on a fouillé entièrement Jérusalem et les alentours. Parce que vraisemblablement, je pense que la police d'Hérode a dû fouiller jusqu'aux limites possibles pour s'échapper. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire, si tu es marche à pied, bah, tu sais que tu ne vas pas faire 50 km en 3 heures. Et si tu es à cheval, donc on sait jusqu'où on peut aller chercher sur les grandes routes des voies romaines pour le retrouver. Donc ils ont fait ce qu'ils ont pu, mais n'ont rien trouvé, dit le texte, sans réussir à le trouver. Ça a dû occuper une partie de la journée, cette affaire.
Oui.
Et puis, bien entendu, Hérode ne s'avoue pas vaincu.
Il faut un coupable.
Ben oui. Si on ne l'a pas trouvé dans Jérusalem et aux alentours...
Il est peut-être resté en prison.
Et on comprend qu'il ne puisse pas vraiment le trouver, parce que même s'il n'avait pas été loin, il ne faut pas oublier que c'est la fête de Pâques. Donc il y a des milliers de pèlerins à Jérusalem, aux alentours, dans tous les bleds du coin. Sur les routes, il y a ceux qui repartent déjà, qui n'attendent pas la fin de la fête des pains sans levain. Enfin bref, un bazar, comme on dit en hébreu, un balagan total. Oui, un truc inimaginable. Donc déjà, fouiller dans ces circonstances-là, ça ne devait pas être évident. Donc ils se savent un peu perdants, je pense, quand même, dès le départ, que ça ne va pas être facile et que ça sera un coup de bol de retrouver Pierre. Et donc, suite à ça... là, on pourrait dire la police d'Hérode fait chou blanc. Alors là, maintenant, il ne reste qu'une carte à jouer. C'est de faire parler ceux qui ont laissé s'évader Pierre. Et pourquoi le fait-il, Hérode ?
On doit se dire que c'est eux qui l'ont fait sortir.
Bien sûr, c'est évident. Si on ne l'a pas trouvé, déjà, il ne peut y avoir que complicité. Au moins des quatre derniers. Alors, on ne sait pas ce que sont pour les autres, mais on peut estimer que Hérode est un peu intelligent et qu'il ne va pas incriminer ceux qui n'étaient pas de service. Mais quoique, on ne sait jamais. En tout cas, les quatre-là, eux, c'est sûr. Et le terme grec utilisé, anakrinas, dans le texte, c'est un verbe qui a trait à une enquête judiciaire officielle. Donc c'est vraiment un terme juridique. On lance une enquête liée à ces quatre gardiens, ou aux quatre derniers, si vous voulez. Mais il faut savoir qu'à l'époque, l'enquête, comme chez la période de l'Antiquité, y compris les Romains, c'est souvent pas gentil. Hein. C'est à coup de fouet, à coup de claque. Et tu parles, tu vas avouer. Oui, il y a de ça, sans doute. Hein. Donc, il n'y a déjà pas de quoi rigoler, nécessairement. Voilà, nos braves soldats, en réalité, sont innocents, ils n'ont rien à dire. Et même s'ils inventaient quelque chose, ça ne tiendrait pas la route. Vous voyez ? Ils pourraient tous inventer comment ça s'est passé ou qui l'a fait échapper, mais ils ne peuvent pas. Ils ne peuvent pas. Et finalement, alors, c'est vrai que quand on lit le texte en grec ou certaines versions françaises, on a un peu l'impression qu'on va les emmener faire un petit tour. Non, c'est bien plus que ça, parce que le verbe grec utilisé, apago ici, c'est un terme juridique aussi. Et on l'utilisait pour dire qu'on emmenait quelqu'un au tribunal, ou bien qu'on l'emmenait en prison, ou bien qu'on l'emmenait à la mort, à l'exécution. Mais vu le contexte, nous, on sait que c'est l'exécution. C'est pas juste « je t'emmène au tribunal », d'ailleurs ils sont déjà sous enquête, c'est pas non plus « je t'emmène en prison », mais comme ils sont soldats, ils doivent répondre de leur vie, de la disparition d'un futur condamné à mort, quelque part. Bref, le texte dit qu'il les fait emmener, c'est-à-dire conduit à la mort. On retrouve d'ailleurs ces mêmes expressions au chapitre 16, verset 27, ou au chapitre 27, verset 42, dans les Actes. Donc des condamnations comme ça, il y en a. Et notamment, le fait que des soldats, je ne sais pas si vous vous souvenez, je crois que c'est dans le chapitre 27, justement, quand Pierre est sur un bateau emmené en prison par des Romains, et il y a un naufrage, les prisonniers vont s'échapper d'après les soldats. Qu'est-ce que veulent faire les soldats ? Les tuer. Et dans le cas du geôlier, une autre histoire avec Paul, lui, il veut se tuer parce qu'il sait que sinon, on le tuera. Et là, Paul lui dit, mais non, fais pas ça, on est tous là, on ne s'est pas évadé, etc. Quoi. Bref, conclusion du verset, ces quatre innocents qui vont payer uniquement pour quelle raison ?
Parce que l'ange
avait pour l'orgueil. Oui, exactement, pour l'orgueil d'un seul. Donc pour sauvegarder un peu les apparences, n'est-ce pas, de la dignité du roi Hérode après cet échec cuisant. Car rappelez-vous du début du texte, on a fait de la pub. On a arrêté Pierre publiquement. On a montré qu'il était jeté en prison. Et on a annoncé à tout le monde, il va y avoir un super beau jugement. Vous allez voir après la Pâque, on va se défouler les amis. Mais après la Pâque, il ne va rien se passer. Parce que Pierre n'est plus là. Et qu'on n'a personne à juger, à condamner à mort. Moi, je me mettrais à la place d'Hérode. C'est vrai que c'est pas folichon. Surtout quand on a fait la pub et qu'on a ses petits copains romains à la forteresse Antonia, puis à Césarée, puis qu'on est obligé de leur dire, ah ben nous, on a perdu au tiercé, là, c'est foutu. Non, et d'ailleurs, on le sent bien dans la suite du passage. Parce que juste après ça, après avoir tué les quatre fameux responsables, complices,
il faut le camp.
Eh bien, puis il descendit de Judée à Césarée, où il passa quelque temps, etc. Mais à lire cette phrase, hein, je ne sais pas si vous vous mettez dans un contexte comme ça, à lire la phrase, on a un peu l'impression qu'Hérode quitte Jérusalem dépité. Dépité d'avoir perdu la face auprès des religieux, auprès du peuple, notamment ceux qu'il aime bien, les pharisiens, et des Romains. Oui, moi je préférais effectivement m'en aller, moi, quitter Jérusalem, où je n'ai pas vraiment de raison de rester, pour ne surtout pas voir le regard des autres, l'air de dire « tu t'es fait avoir, Hérode hein, », etc. Bon, il se console assez rapidement en rejoignant Césarée, une de ses résidences, parce qu'il n'en a pas qu'une, en tout cas une de ses résidences depuis qu'il règne en Judée, depuis qu'on lui a accordé de régner en Judée, ça c'est grâce aux Romains. Et on voit donc que sa stratégie orgueilleuse, qui était de déstabiliser l'Église, a complètement échoué. Et lui, il en est bien conscient de cela. Il n'a pas gagné la bataille. Et désormais, ça ne va pas être facile de jouer les cartes suivantes. Il n'y en aura peut-être même pas du tout. Ben, nous, on le sait hein, qu'il n'y en aura pas du tout. Mais il n'a plus rien à jouer. Peut-être que s'il avait vécu encore un temps, il se serait peut-être réattaqué sous un autre prétexte à ce courant messianique. Mais là, bon, il n'en aura pas trop l'occasion. Voilà, je ne sais pas si tout ça est assez clair. Est-ce qu'il resterait des questions liées à notre péricope ?
Je me demandais, on sait quelle était la peine de mort que Pierre allait encourir ?
En général, celle de Jacques, à mon avis, la décapitation. Les Romains crucifiés, ça c'est très clair. Il semblerait qu'Hérode soit plutôt ami avec les couteaux, comme d'ailleurs ses prédécesseurs, hein, décapité Jean-Baptiste, etc. C'est la même clique, c'est la même famille. Hein. Donc apparemment, bah oui, on décapitait plus facilement. D'ailleurs, la crucifixion n'est pas du tout une condamnation juive. Donc je pense que les pharisiens et tout ça n'auraient pas apprécié qu'Hérode fasse crucifier Pierre par des Romains. Ce qu'ils voulaient, c'est que le judaïsme règle ses comptes. Et comme lui, il est roi, il peut le faire. Eux n'ont pas le droit, rappelez-vous de ça. Oui. Les religieux ne peuvent pas. Ils peuvent dire, il faut condamner, on peut lapider éventuellement dans des cas extrêmes, mais de toute façon, on ne pouvait pas le faire sans l'avis des Romains, sans que les Romains couvrent les choses. Donc lui, il est roi, il fait ce qu'il veut. Il n'a pas de compte à rendre vraiment aux Romains. Et il l'aurait fait sur un rite qui était celui de la décapitation. Oui. Ce qu'on peut supposer, c'est que les soldats ont été décapités par conséquent. Parce que ce n'est pas des Romains, ces soldats. C'est des soldats qui appartiennent au roi. Même s'ils étaient peut-être à la forteresse Antonia, hein, peu importe. Ok. Alors, est-ce qu'on a un peu de courage pour quelques applications? Il est moins 10. Ça va, on est dans les temps. Est-ce qu'il y a des choses qui vous sont venues à l'idée en lisant cette péricope sur des applications possibles?
J'en ai au moins une seule. La prière a une grande efficacité.
Ok. Très bien. Et donc, quand nous sommes assemblés en Église, même si les choses nous semblent impossibles, je rappelle techniquement et humainement parlant, Dieu fait encore ce qu'il veut. Quand il veut. Et parfois il exauce, parfois pas. Pour Jacques, il n'y a pas eu. Pour Pierre, il y a. Donc voilà, on ne sait pas. Ça fait partie, en tout cas, de la souveraineté de l'Éternel. Hein.
Et Jean aussi, l'évangéliste, il est mort de vieillesse, puis il n'a pas été...
On dit qu'il a été martyr à la fin.
Ah oui, quand même, oui.
Ça, c'est les traditions qu'ils disent. Nous, on n'en a pas les preuves. Ouais. En tout cas, c'est celui qui a vécu le plus longtemps.
Oui, oui.
Qui avait sans doute dans les 90 ans à la fin de sa vie. Hein. Donc un beau vieillard. Il y a quand même eu la vie rude. Hein, parce
oui, parce qu'il était sur l'île.
L'île
tout
de
seul,
Patmos, ouais. C'est pas de la rigolade.
Tu l'as dit la dernière,
ouais. Ok, donc on a la prière. On a autre chose? Oh. Je pense qu'il y a moyen.
Quoi donc ?
Seulement qu'on peut facilement prier parce qu'on sait que Dieu peut faire, mais on n'y croit pas tout à fait. Ou notre foi ne peut pas aller aussi loin que ça.
Alors, étrangement, tu vois, dans le cas de ceux-là, ils étaient sans doute en train de prier pour qu'il se passe quelque chose de positif pour Pierre.
Ouais.
Et comme tu le dis, bizarrement,
ils n'y croient pas.
À la fois ils le font, ils n'y croient pas trop, et pourtant Dieu exauce. Moi, c'est ça que je trouve admirable.
Ouais.
Donc, Dieu n'est pas dupe. Il voit bien quand nous sommes hyper convaincus de quelque chose. Et il voit aussi quand on ne l'est pas. Et c'est vrai que, on en a souvent parlé dans le groupe ici, mais quand on parle de prier pour la guérison de quelqu'un, on a toujours un petit, petit bémol. Ouais. Quoi.
Mais moi,
en même temps, moi je pense qu'il faut qu'on soit très sûr que quel que soit le sujet de prière, c'est quand même Dieu qui fera ce qu'il doit faire.
C'est lui qui est souverain. Et quand on prie, on ne sait pas quelle est la volonté de Dieu quand
Exactement.
Même.
Exactement.
Moi, c'est ce que je me dis. Oui, c'est peut-être quand même trop peu de foi, mais je trouve que c'est en plus le fait que c'est Dieu qui est souverain et je ne connais pas ce qu'il a dans la tête.
En fait, c'est moi, ça qui m'ennuie dans certains milieux pentecôtisants, c'est quand on veut prendre autorité sur Dieu lui-même. En exigeant de Dieu telle chose, tel miracle, telle guérison, là je pense qu'on pousse un peu loin le bouchon.
Et tu as dit tantôt, Dieu sait bien ce qu'il doit faire.
Que l'Église soit solidaire par la prière en toute occasion, c'est une excellente chose. Et quand Dieu exauce, c'est aussi une excellente chose de se rendre compte qu'il a exaucé puis d'être dans la reconnaissance, etc.
Mais on voit dans ce
passage-ci. Que Dieu exauce même quand on n'est pas trop sûr de ce qu'on doit faire ou dire. Et donc voilà, tout le monde sait qu'il est en prison, que tout est joué déjà d'avance et qu'on va vers la mort, mais pourtant on prie
quand même.
On prie pour Pierre, pour des tas de choses, peut-être pour sa sécurité, peut-être pour qu'il soit libéré, peut-être
pour qu'il soit en
exactement,
paix malgré les circonstances.
Tout à fait. Donc je pense que ça c'est important de s'en rendre compte. Et comme dans toute église, il y a des traits. Comment on va dire ? Je ne vais pas dire des très fervents parce que ce n'est pas vrai, mais des gens qui sont prêts à croire à tout, y compris au miracle, et d'autres qui le sont moins, qui sont peut-être un peu plus rationnels. Et je pense que ça fait partie de la réalité de l'Église et qu'il faut l'apprécier comme telle. Il nous faut de tout, finalement, dans l'Église, et pas seulement des gens exaltés puis qui voient des miracles partout, quoi.
On ne sait même pas pourquoi il priait. Il priait
voilà,
pour
justement.
Que la prière supporte le supplice.
Exactement.
Oui, la fin, la décapitation, comme Jacques. Pour eux, c'était peut-être les carottes étaient cuites.
Oui, je pense que c'est en tout cas ce que le texte nous laisse voir. Oui. Quelque part, humainement parlant, il y avait peu de chances que Pierre s'en sorte. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a miracle. Oui. Parce qu'il n'y avait pas de solution humaine. Oui. L'Église n'avait pas les moyens d'acheter la libération de Pierre. Ils n'auraient d'ailleurs pas été ni entendus ni écoutés, quand bien même ils auraient consacré leur richesse à ça, quoi.
Mais est-ce que Pierre ne savait pas déjà, et pas par là même, forcément, entre guillemets, Dieu, c'est un mauvais terme, mais il avait déjà choisi la mort de Pierre, il avait déjà prévenu que ce serait une crucifixion, non ? Ou je me plante dans la chronologie, mais...
Tu parles de Pierre.
Oui.
On a vu la dernière fois que Pierre avait l'air assez serein.
Ah.
Et serein parce que pour lui, c'est clair qu'il va au martyr, je pense.
Ou serein parce qu'il sait qu'il n'ira pas.
Ça, je ne le pense pas, parce que lui-même est très surpris par...
Par la manière dont ça se passe. Éventuellement, il pourrait être surpris par le côté miraculeux, bien que ce serait étonnant, mais...
Rien n'est étonnant pour Pierre, puisque des miracles, il en a déjà fait lui-même. Ouais. Donc voilà, je pense qu'il a confiance, une grande confiance en Dieu, quel que soit pour lui le devenir, que ce soit la mort ou la survie.
C'est pour ça que tu parles de serein. Serein, ça ne veut pas dire qu'il saura ce qui va se passer. Serein, c'est qu'il est...
Moi,
je pense qu'il ne sait pas. Il ne sait pas du tout ce qui va se passer.
Mais on ne lui avait pas dit déjà avant, c'était je ne sais pas.
Dès quand il sera plus vieux,
c'est pas ça. Oui, alors si tu parles, de la promesse de Jésus de faire de lui la clé de voûte de l'Église, si tu veux, d'une certaine manière, peut-être que Pierre repose sa sérénité sur cette promesse.
Non, peut-être pas, mais oui. Toi, tu vois, mais je ne sais pas où c'est.
Non, Jésus va lui dire que... Plus tard, lui aussi.
On te mettra
Quelqu'un d'autre te conduira là où tu ne veux pas aller. Voilà.
Oui. Alors c'est très lâche, mais moi on avait toujours dit que c'était une manière
Mais c'est une manière de dire qu'il va au martyr, ça, vous voyez.
Au martyr.
Pas nécessairement à la crucifixion.
Non, pas spécialement.
C'était peut-être arrivé pour lui à ce moment-là, dans sa tête.
Mais en tout cas, le fait que Jésus lui ait promis une mission particulière. Dans le cadre de l'Église naissante, le fait qu'il...
C'est le début.
Oui, je pense que lui continue à croire à la vocation, à la mission à laquelle il a été appelé, et Dieu sait ce qu'il fait. Je crois qu'il est franchement serein, tout en ne pouvant pas imaginer un seul instant qu'en pleine nuit, un gars lumineux, illuminé, allait venir le délivrer, et puis après, il prend sa vie en main, et puis il se cache pendant un certain temps, le temps qu'on l'oublie en tout cas, et puis il va continuer son job.
En tout cas, s'il est serein, il n'est pas fait mal.
Il est
pour remplacer Guy.
Oui, on a bien fait, oui.
Très bien. Très, bien.
Très, très bien.
Alors, revenons aux applications. Donc, on en a déjà deux. Maintenant, je pense quand même à la fonction de Marie dans cette affaire. Et je me dis qu'on a de nouveau, parce qu'on a déjà vu ça dans les actes, une indication du rôle des femmes dans le processus de croissance de l'Église ou de l'essor du mouvement messianique, notamment, et on retrouvera ça plus tard dans les actes, notamment par l'accueil d'une église de maison. Donc on voit que déjà du temps de Jésus, les veuves fortunées s'occupaient du fan club de Jésus. Alors, je parle des 12, mais des autres, des centaines qui tournaient autour de lui. C'est généralement elles qui banquent, qui payent, etc., qui deviendront d'ailleurs les premières grandes dames de l'Église par conséquent. Ici, on a Marie qui s'occupe vraiment d'accueillir une église de quartier, une église de maison, sans doute l'église où Pierre se rend lui-même d'habitude. C'est pas rien. Je pense qu'on doit vraiment prendre conscience que dès le début de l'Église, les femmes ont été à l'œuvre, même si elles n'étaient pas prêtre, entre guillemets, si elle n'avait pas une vocation d'enseignante, etc. Et on va voir se développer ça tout au long des actes des apôtres et puis de certaines épîtres pastorales.
Mais si je puis dire quelque chose, tu dis qu'elle n'avait pas un rôle d'enseignante. Pourtant, on dit...
Il y en a qui enseignaient. Hein.
Oui, que ta grand-mère, sa grand-mère l'a... Oui. C'était pour Timothée ou pour un
autre? Oui.
Pour Timothée. On parle de sa grand-mère qui l'a
enseigné. C'est dans le cadre de la famille. Ça, tu peux.
Oui, dans la famille. Ah c'est oui,
même,
d'accord.
Même aujourd'hui, dans les familles juives, tu peux.
Ah oui, d'accord.
Mais on en voit aussi qui enseignent dans le cadre de l'Église, notamment aux femmes. Donc, notamment, les veuves avaient une fonction particulière vis-à-vis des jeunes, et notamment des jeunes mariés. Et puis, on en voit quelques-uns prêcher de temps en temps. Priscille et Aquilas sont tous les deux à l'œuvre, etc. Bon, on ne va pas se disputer là-dessus. Mais c'est clair que l'Évangile a changé la donne par rapport au judaïsme, dans lequel, là, c'était très clair que seul le masculin primait dans tout ce qui était religiosité. Ce n'est même pas une question d'enseigner. C'est une question que les femmes sont traitées différemment, surtout au 1er siècle. C'est le pire moment du judaïsme, c'est le moment où Jésus vient. Ça, c'est quand même fort, de café, quoi. Donc, quand c'est vraiment n'importe quoi, le Messie vient. Et il vient un peu nettoyer le bazar ici, remettre l'église au milieu du village, c'est le cas de le dire.
Mais quelque part, elle ne s'éloigne pas non plus tout à fait de leur rôle traditionnel.
Non.
Parce qu'elles accueillent, la maisonnée, celle qui la tenait. Enfin, il me semble, hein, je dis peut-être des bêtises, mais...
Ben là, c'est clair, elle est certainement veuve, parce que tu n'aurais jamais dit...
La maison de Marie.
Oui, s'il y avait un mari, on aurait d'abord cité le mari comme responsable de la chose. Bon, voilà. Alors après, je pense qu'on a aussi un petit clin d'œil sur l'esclavage qui est intéressant dans ce texte.
La petite jeune Ruth.
Oui, je pense qu'il faut s'en inspirer un tout petit peu pour se dire qu'au moment, à l'époque de l'Église naissante... L'esclavage existe dans l'ensemble de l'Empire romain. Est-ce que vous auriez un chiffre à citer sur le nombre d'esclaves qu'il pouvait y avoir dans tout le bassin méditerranéen? Rien qu'en Italie, donc rien que pour Rome, le petit territoire là, de l'Empire, il y avait déjà 3 millions d'esclaves sur 7 500 000 habitants de l'époque.
Un tiers, quasi.
Non, un sur deux.
Oui, mais dans le reste du bassin, niveau des Romains, c'était 30%.
Il fallait être riche pour avoir quand même des esclaves.
Oui, mais il y avait beaucoup d'esclaves liés à l'abandon d'enfants. Donc quand on avait, on n'avait pas les moyens de nourrir un enfant, eh ben, on le mettait à la rue, on l'exposait. Vous vous rappelez, on en avait parlé une fois de ça. On exposait l'enfant, et puis qu'il voulait, l'achetait, et puis partait avec. Comme un objet, quoi.
Oui. Une chose, l'esclave, comme tu parles là, dans le milieu méditerranéen, c'est un peu le même, comment je veux dire, esprit ou type que l'esclavage qui a eu lieu aux États-Unis ou
quoi. Non. Alors, je crois que là, on pourrait dire en grec, domestique, en grec, il n'y a pas de différence entre être esclave et être serviteur.
Voilà.
C'est le même mot. Donc, résultat des courses, la plupart sont esclaves parce qu'ils ont été achetés à un moment donné, ou ils se sont vendus eux-mêmes, parce que quand on était très très pauvre, parfois on demandait à être acheté. Donc, ce n'est pas toujours des conditions, comment dirais-je,
méchantes.
Ce n'est pas du kidnapping nécessairement, et puis on te vend comme esclave. Mais c'est parfois, la misère était telle qu'on se proposait à la vente comme esclave. Voilà, pour pouvoir payer ses dettes, pour un tas de raisons. Et puis on restait esclave parfois toute sa vie. Hein. Et puis si tu avais des enfants qui naissaient d'un couple esclave, qui n'avaient déjà pas le droit de se marier, entre nous soit dit, ils pouvaient être concubins mais pas mariés, eh bien les enfants devenaient automatiquement esclaves du maître auquel appartenaient, un peu comme aux États-Unis à l'époque, hein, avec les Noirs. Voilà, mais ce n'est pas les mêmes conditions.
Ce que je veux dire, les conditions pour les Noirs, hein, qu'on amenait d'Afrique ou quoi. Aux États-Unis, c'était quand même...
Mmh. Ce qui est surprenant, c'est de découvrir, si tu veux, que les conditions dans l'Empire romain, ça représentait quand même presque un tiers de la population de l'Empire qui était esclave. Alors qu'en Égypte, juste à côté, dans le sud du bassin méditerranéen, 10% seulement de la population. Mmh. Bon, c'est pour se fixer une petite idée. Moi, je reviens à mon idée, pour ne pas perdre le fil totalement. Ben, le Nouveau Testament, il mentionne plusieurs fois la condition des esclaves, et notamment dans les épîtres pauliniennes, des esclaves devenus chrétiens. Et vous en avez une belle preuve par l'épître à Philémon, avec l'histoire d'Onésime et Philémon, où Onésime s'était barré, il en avait marre d'être esclave, s'était barré, puis s'est fait arrêter, puis il s'est retrouvé en prison avec Paul. Paul l'a christianisé, on va dire ça comme ça, évangélisé, il devient chrétien. Et il se trouve que Paul connaît Philémon, c'est un ami de longue date, et lui écrit une petite lettre en disant « Écoute, maintenant que l'autre est devenu ton esclave et devenu chrétien, il faut le traiter comme un frère. » Je résume très fort l'épître à Philémon. Eh bien, on peut se dire que dans l'Église messianique, le courant messianique, beaucoup d'esclaves, et notamment on l'a vu chez Corneille, les domestiques, etc., beaucoup d'esclaves vont devenir chrétiens. Et donc, eux-mêmes vont devenir acteurs du christianisme, si vous voulez. Soit par conversion d'autres esclaves, etc. Soit parce qu'ils sont acteurs dans l'église locale. D'ailleurs, on voit dans une des épîtres de Paul que parfois, les maîtres ne sont pas très sympas parce qu'ils n'attendent pas pour prendre la scène, ils n'attendent pas que les esclaves soient revenus de leur tâche. Et Paul n'est pas content du tout de ça. Il estime que, selon l'Évangile, on est tous frères, que l'on soit esclave ou maître. Et donc, dans l'expression religieuse, il faut garantir cette égalité. Ce qui n'est pas rien. Je ne sais pas si vous imaginez à l'époque, c'est révolutionnaire comme raisonnement, quoi. Oui, tu dois rester esclave, tu dois rester soumis à ton maître, mais dans la foi... Vous êtes égaux. Il n'y en a pas un qui est supérieur à l'autre. Quand même pas mal. Et puis je vous parle de cette petite esclave parce que je trouve ça assez intéressant de voir que elle n'a pas été crue sur le moment même, mais finalement c'est elle qui avait raison. Et c'est aux grandes dames de tous les autres. Hein. Une autre chose auquel j'ai pensé, moi personnellement, c'est la notion d'emprisonnement. Puisque ce n'est pas la première fois qu'on le trouve dans les Actes, l'emprisonnement des chrétiens à cause de leur foi, pas à cause d'une chose qu'ils ont mal faite dans la vie. C'est une réalité constante au fil de l'histoire, tout au long de l'histoire, y compris aujourd'hui, on a des frères et des sœurs qui sont arrêtés pour rien, juste parce qu'ils croient en Jésus le Messie. Et il ne faut pas l'oublier, jamais l'oublier. Et presque, j'ai envie de dire, il faut toujours être prêt, nous aussi. Un jour, ça peut nous arriver, ça. Ce qui arrive à d'autres peut nous arriver demain. ni oublier non plus que Dieu s'est servi des prisonniers plusieurs fois dans l'histoire comme témoin, témoin dans les prisons, propageant l'évangile malgré tout, malgré l'interdit, c'est quand même assez dingue, quoi. À commencer par Paul et Barnabas, hein, ça leur arrivait une paire de fois, quoi. Ou Silas aussi. Et donc cette réalité des chrétiens emprisonnés, je crois qu'elle peut aussi nous conduire à des ministères en milieu carcéral. Je pense à plusieurs choses, hein. Par exemple, mettre la Bible à disposition des prisonniers. Il y a pas mal de maisons d'édition qui recherchent des fonds. Notamment, il y a une belle chose qui s'est faite en France il y a 2 ou 3 ans, si je ne m'abuse, qui a été d'éditer une Bible des prisonniers. Une Bible qui était accompagnée d'un carnet sur la notion de liberté. Donc l'usage de la liberté, Jésus qui rend libre, etc., etc. J'ai trouvé ça très très beau à l'époque. Hein. Mais je reviens à mes moutons. Donc comme exemple, on peut aussi être visiteur de prison, tout simplement. On peut être aumônier, c'est un autre stade. Ou entretenir une correspondance avec un ou des prisonniers. Je pense notamment à l'œuvre de la CAT en particulier, donc Action des chrétiens pour l'abolition de la torture, qui très souvent propose d'entretenir une correspondance avec des prisonniers condamnés à mort, notamment aux États-Unis par exemple, ou bien d'animer des formations bibliques, d'aider les sortants de prison, enfin plein de possibilités de soutien et de témoignage de l'Église, en souvenir de nos frères et sœurs, eux-mêmes prisonniers. Enfin, un petit détail qui ne doit pas nous échapper quand même, c'est Pierre lui-même et la clandestinité. Parce que nous, on est un peu triomphaliste, je trouve, en Occident. On croit toujours que l'Église est sur un tapis rouge, et voilà, tout va bien, il n'y a pas de problème. Mais non, parfois, notre vie chrétienne devra se réaliser ou se vivre dans la nécessité de la clandestinité. Et on en a la preuve avec l'Église persécutée, justement, porte ouverte, qui nous raconte des témoignages de gens qui vivent dans des pays où tu ne peux pas t'afficher croyant.
Oui, sinon on te tue carrément.
Sous peine d'être tué, et d'être tué sans jugement par ton voisin, ta voisine. Enfin, c'est assez incroyable, quoi. Et donc, il y a des lieux qui sont d'une telle barbarie qu'il est impossible de s'afficher croyant, à moins, alors là je vais jouer, hein, à moins de se vouloir martyr, mais alors ça ressemble vachement à de l'orgueil. Parce que martyr pour rien, tu vois ce que je veux dire, si ça ne conduit pas à quelque chose que Dieu souhaite comme vocation, il vaut mieux pas le faire. Parce que je ne suis pas sûr que tu récolteras beaucoup de points. Au bout du compte. Donc attention de ne pas confondre Église libre et Église sous le joug d'une domination et dans laquelle parfois il faut être prudent si on veut continuer. Parce que pourquoi Pierre se cache ? Pas simplement pour survivre, pour continuer son job. Parce qu'il sait que Dieu peut lui permettre de retrouver une liberté d'action. Et si ce n'est pas dans le territoire sur lequel il avait des droits, ce sera ailleurs. Ce sera peut-être chez les païens, etc. Donc lui, il continue à faire confiance. Et je pense donc qu'il ne faut pas qu'on perde de vue non plus l'idée que parfois, en tant que croyant, on va être obligé de jouer la carte du secret, de l'anonymat. Je me rappelle d'une époque, je vous l'avais déjà raconté ça, mais quand j'étais au Tchad, j'étais jeune, et j'ai des copains qui ont été obligés... Bon, il y avait une révolution culturelle, etc. Le président avait décidé qu'il fallait retourner aux sources, à l'animisme et compagnie. Et beaucoup de mes potes, qui étaient un peu plus âgés que moi, puisque moi, je devais avoir au moins 2 ans de moins qu'eux, ont été embarqués de force, retour au village, et obligés de pratiquer des trucs animistes, avec des sacrifices et tout ce que l'on veut. Et il y a eu 2 courants. Le courant des puristes qui disaient « Ah non, on va pas accepter ça, on va se battre », la plupart sont morts, hein, je le signale au passage. Notamment la plupart des pasteurs qui ont osé s'opposer ont été zigouillés. Et puis, il y a eu la 2e vague Par exemple, quand mes potes donc, ont été à deux doigts d'être embarqués, ils nous ont demandé qu'est-ce qu'il faut faire ? Résister ? Fuir ? Ou y aller quand même ? Et moi et d'autres, je leur ai répondu, l'important, c'est le lien que tu as avec Dieu. C'est la foi que tu entretiens dans ton intériorité. C'est ça l'important. Ce n'est pas le signe visible de la contestation, de la résistance, qui a plus de valeur que le fait de devoir subir des choses, l'humiliation, des rituels auxquels tu ne crois pas. Et finalement, la plupart sont revenus quelques mois après cette expérience et ont été tout aussi actifs et acteurs de l'Église qu'avant, sinon mieux. Ah, qu'est-ce qui est bon ? Seul Dieu sait, et seule la conviction personnelle doit l'emporter. Mais pas pour des raisons d'orgueil. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est pas, il ne faut pas se proclamer martyr. Il faut être appelé au martyr. Et ça, c'est tout à fait différent. Et je pense que les apôtres, eux, avaient bien compris que leur ministère était très risqué. Plus que tout autre, ils étaient sujets à être martyrs. Et ils ont tous fait ce qu'il fallait pour durer le plus longtemps. Et tous sont morts, pourtant, de manière un peu violente, quoi. Sauf Jean, qui semble s'en être bien tiré, finalement. Bon, allez, revenons à nos moutons.
C'est l'heure. Oh,
9h15. J'avais un dernier point. Comme application. Je l'ai intitulé « Dieu règle ses comptes avec les puissants ». Justement, ceux qui pensent qu'ils ont le droit à tout et de tout faire. Ouais, parce que Dieu a sa volonté propre, une volonté souveraine, un plan dans l'histoire qui échappe aux hommes. Et Dieu règle donc ses comptes avec Hérode. Parce que je ne parle même pas de la mort d'Hérode. L'échec de sa stratégie, et qu'on pourrait qualifier vraiment de cuisant, l'échec cuisant d'Hérode, est une manière pour Dieu de lui damer le pion et de le remettre à sa place. Et on a plein d'exemples dans la Bible. Le pharaon, commencé par lui, l'Empire romain, avec tous ceux qui ont voulu écraser l'Église pendant 3 siècles, et puis, je pense, aux différents communismes aussi, au travers de l'histoire, qui se sont tous attaqués à l'Église, tous, pour aboutir à quoi, finalement ? À la chute du mur de Berlin, à la déliquescence de l'Union soviétique, et on espère un jour à la fin du régime en Corée. On peut espérer pour nos frères chrétiens, en tout cas. Donc, finalement, on n'a pas le maître mot par rapport à ça. Et les puissants jouent aux puissants tant qu'ils peuvent, mais Dieu peut aussi leur fermer la bouche. Et on verra dans le cas qui nous occupe que ça va mal se terminer pour Hérode dans quelques temps. Voilà. Donc, la prochaine fois, si vous le voulez bien, on verra les choses à partir du verset 20. On n'aura que 5 versets. Ça ne devrait pas être trop compliqué pour nous.
Ah bon ? 25.
Oui, on termine le chapitre 12 pour ne pas commencer l'envoi en mission, justement, de Saul et Barnabas. Ça, c'est une toute autre histoire qui va nous emmener sur les bateaux, les chemins, etc.